le métier de bûcheron était surhumain. Mais il m'a mis sur une piste. Le bonheur vient des contrastes. En sortant du bois, les bûcherons devaient avoir très envie de rentrer en ville pour prendre un verre. J'ai mal au corps juste à y penser. Professeur Vidashka, servez-moi une bière.
L'industrie forestière, en 1933, au Canada, c'est le plus gros employeur. On coupe de la pitoune pour faire du papier.
Jocelyne Saussier.
Les États-Unis ont commencé à décimer leurs forêts. Ils se sont tournés vers le Canada pour avoir du bois de pulpe. Et c'est comme ça que le Canada a eu une industrie forestière florissante. Mais quand est arrivé le crash, les quotidiens américains et canadiens ont fermé beaucoup. Il y a eu une crise de l'industrie du papier, donc une crise forestière, ce qui a amené une baisse des conditions de travail pour les bûcherons. Et c'est comme ça qu'a éclaté la première grève des bûcherons au Québec, ici, à Rouyn-Noranda, ce qu'on a appelé la grève du Clairion. Il y avait, au sud de Rouyn-Noranda, il y avait le secteur Clairion, où il y avait 700 bûcherons. Et au nord, il y avait le secteur Cléricy, où il y avait 2000 bûcherons. Donc, autour de Rouyn-Noranda, il y avait 2700 bûcherons, ce qui correspond à peu près à la moitié de la population de Rouyn-Noranda. Donc, il y avait plus de bûcherons que de mineurs. Les bûcherons avaient eu des assez bonnes conditions de travail avant la crise économique. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, bon, la compagnie forestière, c'était la CIP. Et cette compagnie-là opérait par sous-traitance. Elle donnait des contrats à un sous-traitant, lequel en donnait à un autre sous-traitant, des jobbers, des sous-jobbers, des petits chaudrons, comme disait ma mère. Et les conditions de travail, les conditions de contrat se réduisaient au fur et à mesure qu'on allait d'un petit contractant à un autre petit contractant. Et avec la crise économique, les conditions de travail, on a réduit les salaires. Il fallait qu'il paye sa pension, qu'il paye ses vêtements, son équipement, ses haches, son tabac. De telle sorte qu'il pouvait se retrouver avec 22 $ par mois net pour 10 heures de travail par jour, 6 jours par semaine. Et puis, ils ont introduit à ce moment-là aussi le travail à la pièce. Il y avait les conditions d'hygiène qui étaient pénibles. La nourriture qui se dégradait, on se plaignait de chaudrons rouillés. Et la pire, je crois, la pire des choses, c'est que pour économiser le prix d'entretien et d'achat d'un cheval, on a obligé les bûcherons à faire le travail du cheval, c'est-à-dire à transporter les arbres abattus sur leur dos, le skidage qu'on appelait. Donc, c'est ça qui a amené à la grève du Clairion. Tout le monde avait quelqu'un dans sa famille qui était bûcheron. Donc, ils ont eu l'appui de la population. Et même que, tacitement, ils ont eu l'appui du curé Pelletier. Donc, il y a eu 400 bûcherons qui ont marché. Ils ont marché 50 000 de long dans la neige. Et ils se sont rendus jusqu'à Rouyn. Et puis, et le dimanche, le curé Pelletier, qui savait que ces hommes-là étaient catholiques pratiquants, mais qu'ils n'iraient pas à la messe du dimanche en habit de travail, et c'est tout ce qu'ils avaient à se mettre. Donc, il a fait une messe spéciale pour eux le dimanche. Une messe où il n'y a pas eu de quête, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'argent. Il a terminé son homélie en disant, « Si vous êtes encore là dimanche prochain, vous aurez une messe à la même heure. » Et c'est là que Jeanne Corbin est arrivée le 9 décembre 1933 à une assemblée des grévistes et qu'elle a prononcé son fameux discours qui les encourageait à poursuivre la grève.
Pour un camarade arrêté par la police, il y en aura des dizaines d'autres qui se lèveront et reprendront le flambeau de la lutte. Contre les serviteurs de l'impérialisme, il faut opposer une ligne de piquetage forte comme le roc. S'il n'y a pas assez de volontaires parmi les hommes pour aller à la ligne de piquetage, ce seront les femmes qui iront.
Donc, c'est ce discours-là qui va lui valoir d'être accusé d'incitation à l'émeute. La police a arrêté les chefs de la grève, dont entre autres Jeanne Courbin à Rouyn-Noranda. Il y a 77 personnes qui ont été accusées, qui ont fait entre 4 et 12 mois de prison. Jeanne Courbin elle-même a fait 3 mois de prison à Ville-Marie. Et après leur terme de prison, ils sont revenus à pied de Ville-Marie.
On ne sait jamais à quelle heure arrive mon père, ni quel jour, ni quel mois. Mon papa travaille dans le bois pour la compagnie forestière Canadian International Paper, qui s'écrit CIP et qu'on prononce CIP. L'hiver, il part aux premières glaces pour revenir à Noranda la veille de Noël, vers 10 heures. Nous l'attendons de pied ferme parce que c'est lui qui nous apporte le sapin encore tout raide et tout glacé qu'il vient de couper dans la forêt et que nous décorons en vitesse avant la messe de minuit.
Quand on est monté dans le bois, la première année, on est monté dans le bois, j'avais même pas mes 14 ans. Dans ce temps-là, ils fermaient quasiment les écoles.
Conrad Moras.
La guerre n'était pas finie. Moi, j'ai monté en 1942, mais il n'y avait pas d'hommes. Tous les hommes qui étaient d'âge, au mur, là, ils étaient tous partis à la guerre. Fait qu'ils étaient obligés d'engager des petits gars. Tous les jeunes de mon âge, 13, 14, 15 ans, c'était juste de ça. Puis les contracteurs, ils n'aimaient pas ça bien bien, on n'avait aucune expérience. La guerre, ça nous a sauvés. Mon père travaillait pour 5 cents par jour, moi j'ai commencé à 2 piastres. Puis après ça, ça n'a pas été long, un an après, c'était rendu à 5 $. Mais il n'y avait pas d'hommes. Fait que ils sont venus payer, les petits gars. Mais on commençait le matin, on se levait à 6 heures. Puis après déjeuner, on partait, puis on allait à boucher. C'était au bio, mais toi, ça avait 10 cents du bio, 5 cents du bio, mais non, ils appelaient ça au 1000 pieds. Il y avait 1000 pieds cubes, là, ils nous donnaient 8 $. Mais là, tant qu'on a commencé, nous, la première année, on a monté avec notre père. Mon frère, le plus vieux, on faisait 25 $ par jour, les poids, à comparer à 50 cents. Mais là, ça a fait du bien parce que mon père, lui, et comme il dit, je me suis endetté pendant le temps de la crise, pendant les 10 ans de crise, là. Il dit, mais que je sorte, je paye tous mes comptes.
La plupart des colons travaillaient dans les chantiers. Il y en avait qui étaient des colons installés, mais il y en avait qui venaient d'ailleurs aussi.
Laurent Roy.
Ils venaient faire la ronde de chantier, puis de drap, puis ils s'en allaient. C'était des bûcherons. Quand on parle de personnes qui faisaient du tender, c'est un peu cow-boy, là, mais c'est des gars qui venaient des villes souvent, puis qui n'avaient pas d'argent. Puis le seul moyen de transport, c'est sauter sur le train, jumper sur le train. Quand il arrivait à Tiricy, aussitôt que le train modérait, ben, pas se faire prendre, il sautait avant que le train arrête. Mais ça, c'était des gars qui venaient bûcher. Le matin, là, quand il y en avait un bon groupe, ils se rassemblaient tous chez nous, à Tiricy, dans le magasin général. Puis là, il y avait un foreman de chantier qui disait, il engageait. Là, il choisissait gros, des gros hommes. Toi, je te prends. Toi, toi, toi. Les autres, les plus petits, allez-vous ailleurs. On bûchait l'hiver, à partir de l'automne, aller à la drave au printemps. On descendait être la drave. C'était des billots. On pilait ça le long des rivières, de la rivière. Alors, quand l'eau montait, on envoyait tous les billots à l'eau. Mais il y en a beaucoup qui se perdaient dans le bois après. Ça ne suivait pas la rivière, ça, avec eux, ça bloquait. Ça fait que là, les draveurs, eux autres, étaient obligés de débloquer ça, surtout dans les rapides où il y avait des roches, là. Ben là, on faisait sauter ça. D'autres fois, on revenait à bout d'être décroché avec des pics, là. Alors, les colons, lui, après que l'eau était baissée un peu, que la drave était passée, là, on faisait la sweep.
Alors que j'avais 14 ans, j'avais travaillé sur la sweep.
Jean-Charles Coutu.
C'est qu'on ramassait le bois qui s'était échappé des cages qui étaient transportées sur les lacs. Ce bois-là était envoyé par les rivières jusqu'à Témiscamingue Sud. Et on nettoyait le tour des lacs, le tour du réservoir, pour ramasser ce bois-là qui traînait avant qu'il dépérisse.
Pourquoi le Témiscamingue s'est développé premier? Parce que c'était accessible.
Fernand Bellumeur.
Mais après, quand il y a eu le chemin de fer, coast to coast, Là, la ligne de chemin de fer passant, des compagnies forestières pouvaient commencer à couper du bois le long de la voie ferrée et transporter le bois par le train, alors qu'avant, c'était par la drave, par le bois d'eau, et donc le bois descendait vers le sud. Tandis que s'il y avait mis ça de l'autre côté de la ligne de partage des eaux, ça serait parti vers la baie du Tson. Alors, c'est pour ça que l'Abitibi s'est développé 50 ans après le Témiscamingue.